Se pensi che gli anni non hanno a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
Bonjour à vous toutes et à vous tous, les passages. Vous qui habitez cet espace de liberté, une liberté de penser, capable d'écouter les différences, les étrangetés et les imprévus. Cette émission vient à votre rencontre. Et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Florence Villard-Martignot, une femme au parcours de vie qui lui a permis, suivant le conseil de Nietzsche, de devenir qui elle est. La dernière émission s'est interrogée sur le meurtrier du roi Laios. Elle a mis en évidence qu'à côté du complexe d'Œdipe centré sur le désir, il fallait certainement entendre un autre complexe. Centrer celui-là sur le devoir. Le complexe de Jocaste, pour le devoir féminin de l'épouse et de la mère, et le complexe d'Antigone pour le devoir féminin de la sœur. Je ne pouvais donc pas faire autrement aujourd'hui que d'inviter une femme pour recueillir votre avis. C'est vous les femmes qui êtes les mieux placées pour nous faire part de vos savoirs éprouvés au sujet du devoir. D'ailleurs, pas seulement le devoir singulier, les devoirs pluriels aussi. Devoir mettre au monde, devoir apprendre au bébé à survivre, ce sont des savoirs d'éprouver avant d'être des savoirs à enseigner. D'ailleurs, nous sommes dans le studio de la radio web Esprit Occitanie qui porte le nom d'une femme, Gisèle Halimi, avocate franco-tunisienne au barreau de Paris. Militante féministe qui toute sa vie a lutté politiquement pour le droit des femmes. Elle était déléguée permanente de la France auprès de l'UNESCO. Comme vous, les femmes, nous, les hommes, nous avons tous été les fils d'une mère. D'ailleurs, Léo, qui est à la technique, me le confirme de son sourire. Alors merci Florence d'avoir accepté cette lourde tâche d'être un peu la porte-parole du féminin et de ses multiples complexités. L'épouse, la mère, la sœur, l'amante. Bonjour Florence.
Bonjour Bertrand et merci de me recevoir dans cette belle émission des passages.
Il fallait que ce soit toi. Car il faut que les auditrices et les auditeurs de la précédente émission sachent que c'est toi qui m'as fait découvrir Clara Isée.
Oui.
Quand j'ai écouté la première fois sa chanson intitulée « Douce », l'homme que je suis a eu la chair de poule puisqu'elle s'adresse à moi. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance me soignent autant que le silence.
Oui.
Penses-tu, Florence, que ces paroles chantées par Clara Isée sont porte-parole de l'intériorité des femmes?
En tout cas, Clara Isée, dans cette chanson, exprime une colère. Exprime quelque chose qui est adressé, une parole qui est adressée sans doute aux hommes. Et c'est peut-être pour ça que tu as eu la chair de poule en l'écoutant. Cette colère, je pense qu'on peut effectivement la comprendre encore malheureusement aujourd'hui. Hier soir, à tout hasard, je regardais une émission et un documentaire qui était fait sur Denis Mukwege, qui est ce prix Nobel de 2014, qui répare les femmes, un homme qui répare les femmes au Congo. Donc oui, il y a des colères légitimes, et peut-être que Clara Isée, à travers cela, l'exprime. puisque aujourd'hui encore, comme je l'ai vu dans ce documentaire hier, tant de femmes par leur corps souffrent, puisque les viols sont des armes de guerre, puisque ces mutilations faites aux génitales, donc par même des coups de feu ou des armes blanches qui détruisent l'intérieur, l'origine de la féminité et de la maternité. Il y a des colères qui, si elles sont réprimées, peuvent ou ne peuvent pas s'exprimer, peuvent virer à la haine.
Alors, tout à l'heure, tu m'as montré un petit texte, hein, et figure-toi que tu m'as dit que c'était la mère de Clara Isée qui avait écrit ce texte. Hein, et du coup, je me dis, est-ce que pour entretenir la complexité, elle ne s'adresse pas aussi à la mère ? Est-ce que la haine et la chienne concernent à la fois ce que Clara Isée ressent peut-être pour les hommes, mais aussi finalement pour la figure maternelle ?
Oui. Oui, d'ailleurs, je vais te lire ce texte, ce passage qui est dans le livre de La sauvagerie maternelle d'Anne Dufourmentel, qui est donc la mère de Clara Isée. Toute mère est sauvage. Sauvage en ce qu'elle appartient à une mémoire plus ancienne qu'elle, à un corps plus originel que son propre corps. Boue, sable, eau, matière, liquide, sang, humeur, à un corps de mort, de pourriture et de guerre, à un corps de vierge céleste aussi. Sa langue vient avant la langue. Elle est pur rythme, avec ses blancs, ses effacements, son impossibilité à dire, à savoir, à comprendre. C'est une langue sans mots, sans affect même, une langue sauvage, faite de morceaux de corps détachés par la naissance de ce tout, dont la perte nous affecte, dans l'enfance, comme un abandon premier, irrémédiable.
Alors c'est incroyable les résonances qu'il y a entre ce texte et le texte de Jeanne Benhameur dans L'enfant qui, hein, lorsque elle écrit sur la mère des origines. Alors vois-tu, selon qu'on se situe à l'époque du paléolithique ou aujourd'hui en 2023 dans un pays comme le nôtre, la France, les réponses aux questions suivantes sont-elles différentes ? Sont-elles porteuses de violence ? À savoir, est-ce que quand on est fille, on va devoir être mère ? Est-ce que pour devenir mère, il faut être épouse, épouse d'un masculin ? S'agit-il d'un devoir de mettre au monde un petit ? Et qu'en est-il du désir ? Désirer avoir un enfant ? Désirer être parent ? Qu'en penses-tu ?
Alors la question est vaste, effectivement, et tout dépend de là où on se place. Effectivement, si on pense aux premiers âges, dans nos origines, le choix d'être mère ne se posait pas, finalement, puisqu'on le devenait si, effectivement, on était dans la capacité d'enfanter, on le devenait naturellement dans ce milieu. Aujourd'hui, effectivement, la modernité amène un choix aux femmes et pose la question du choix de la maternité qui ne se posait pas auparavant. Évidemment, l'évolution de la médecine, de la contraception, la possibilité de l'accès à l'IVG fait que devenir mère n'est pas forcément obligatoire. Et donc, ça appelle aussi à la notion du désir d'enfant. Aujourd'hui, devenir parent, il y a des choses conscientes qui se jouent, évidemment, et des choses plus inconscientes aussi. Voilà, peut-être que les parents aujourd'hui veulent, effectivement, dans leur désir d'enfant, donner de l'amour, transmettre des connaissances, des valeurs, plus traditionnellement, un héritage ou un héritier encore, tout simplement pour pour transmettre peut-être encore sans doute un bout d'éternité, je dirais.
Oui, et puis c'est une façon de transmettre que la vie est quand même, par plein d'aspects, une expérience à vivre, même si on vit dans un monde qui visiblement devient de plus en plus compliqué. Ça me fait toujours penser à cette phrase « la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». Alors, nous avons ensemble rencontré Marie-Lisa dans le cadre de l'école de psychothérapie intégrative E3PI dont nous allons parler. Son chemin d'existence l'a conduit à mettre en parole et en musique ses éprouvées de femme qu'on peut écouter sur YouTube. Quand la colère et l'arrogance de Clara Isée ne soignent pas, Marie-Lisa chante « Étranger comme un silence ». Le voyageur de la dérive lui a appris le sourire que le temps ne sait pas lire. Sourire pour laisser planer le rêve. Alors, il faut certainement écouter le silence quand on voit la violence et toutes les choses qui se jouent dans les récits mythologiques. Surtout qu'à partir du néolithique, ils ont subi l'inversion conservante en devenant patriarcal. Il me semble que cela montre l'ambiguïté pour l'homme d'avoir un héritier. Est-ce un rival potentiel ou celui à qui on va transmettre l'héritage de ses propriétés? Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est différent lorsque, effectivement, ce sont des parents qui transmettent l'héritage de valeurs, l'héritage d'une humanisation pour pouvoir avancer dans un monde qui permettrait de mieux vivre ensemble. S'agit-il alors d'un devoir pour une femme de donner un fils à un homme? Et il me semble que le livre de la philosophe Olivia Gazalet, Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, permet de sortir de la confusion entre virilité et masculinité. Qu'en penses-tu, Florence?
Ben oui, effectivement, je pense que on peut repenser avec ce livre ce qu'est aussi être un homme et devenir homme, tu vois, comme dans le deuxième sexe de Simone de Beauvoir qui nous dit on ne naît pas femme, on le devient, et dans le prolongement on ne devient pas forcément toujours une mère. Et effectivement, en miroir, on peut se poser la question aussi de ce qu'est la virilité. Est-ce une injonction culturelle faite à l'homme? Ou qu'est-ce que la masculinité? Être masculin, tu sais, il y a toujours du yin dans le yang et du yang dans le yin. Je pense que autoriser l'homme, ou que l'homme puisse s'autoriser surtout, à être plus sensible, plus empathique, n'en fait pas moins un homme, je pense, pas moins un vir, puisqu'elle parle de viriarcat, plus que de patriarcat d'ailleurs.
Exactement. D'ailleurs, elle dit dans son livre que la construction de la virilité à l'origine se serait faite sur des normes et des injonctions aussi coercitives que paradoxales. Et je trouve que ça permet de retravailler le rapport entre les hommes et les femmes. La problématique proprement masculine aux effets sociologiques douloureux, nous dit cette philosophe, ce ne sont pas les femmes qui en sont responsables. Les hommes ne sont pas des victimes. Les femmes n'ont pas dépossédé les hommes de leur virilité, puisque c'est pas de ça dont il s'agit. Et donc le mythe serait tombé dans son propre piège, hein, les hommes devenant les agents de leur propre oppression.
Oui, oui, et je pense que le changement peut venir de manière surprenante, peut-être que je vais te dire ça, pas du regard des hommes portés sur les femmes. Le changement va peut-être venir du regard des hommes sur eux-mêmes. Peut-être que quand ils changeront de regard sur eux-mêmes, ils pourront changer de regard sur nous, les femmes.
Alors c'est tout à fait important et ça me paraît intéressant de passer la deuxième partie de la chanson de Marie-Lisa sur « Étranger comme un silence » où elle se pose la question « Qui es-tu, toi, petit être ?» qui vient sans forme ni paraître, si seulement je savais regarder. Thank you.
Alors Bertrand, je voulais, pour faire suite à la chanson de Marie-Lisa, lire un extrait de ton livre « Mystère Néandertal à Bruniquel, le propre des femmes ou le pouvoir des mères ». Il y a un passage qui m'a bouleversée dans ton livre, qui est très très beau et que je voulais partager. Tu dis « Regarder, c'est voir deux fois, voir l'autre ». Et se voir. Pour l'enfant, entrer dans la co-naissance, ce sera d'abord apprendre à connaître par le regard de l'autre, puis pouvoir reconnaître dans le regard de l'autre. Cette humanisation verticale de l'homonisation de la parentalité maternante, insufflant à l'infantile archaïque, un contenant rassurant et protecteur est bien le propre de la femme. Cette préoccupation maternelle primaire est nécessairement de nature incestuelle pour pouvoir ensemencer la naissance de la psyché dans le cerveau émotionnel du bébé. L'incestualité est à l'origine de l'humanisation dans la rencontre archaïque de l'infantile et du parental.
Merci beaucoup Florence de lire ce passage qui effectivement compte beaucoup pour moi et qui en même temps est d'une très grande difficulté à communiquer ou et alors de pouvoir le faire là sur cette antenne de Radio Occitanie qui nous offre cette liberté de parole est vraiment importante pour moi. J'ai compris en tant que thérapeute que lorsqu'une personne vient me trouver, me fait confiance, elle m'autorise à entrer dans sa psyché. Elle m'autorise à venir partager avec elle ses conflits, ses difficultés. Et ça m'a fait travailler la question, donc, non pas de l'inceste, mais de l'incestuel qu'avait décrit Paul-Claude Racamier comme les effets pathologiques que provoque de l'incestuel, puisqu'il dit que l'incestuel est à la psyché, ce que l'inceste est au corps. Donc, comme beaucoup de médecins et de psychiatres, nous sommes confrontés aux effets pathologiques, mais derrière les effets pathologiques, il y a de la physiologie, ce qui rejoint le point de vue de Canguilhem dans le normal et le pathologique. Et je me suis aperçu dans mon travail auprès des enfants que les troubles que les enfants pouvaient présenter qui justifiaient les consultations étaient en réalité de la physiologie qui n'avait pas réussi à s'élaborer, comme par exemple le début des cauchemars, hein, qui peuvent devenir des terreurs nocturnes, alors que c'est naturel que le cauchemar arrive à un certain moment dans la maturation du cerveau aux alentours de 2 ans et demi, 3 ans, et que l'enfant va se dire qu'il a peur des voleurs. Oui. Et c'est pas les voleurs extérieurs, bien sûr, c'est les voleurs intérieurs qui animent ces rêves nocturnes comme s'il y avait des présences à l'intérieur de soi. Alors, merci beaucoup de faire référence à ce passage dans le livre, car c'est pour moi un des vecteurs importants de cette écriture et de cet essai qui, effectivement, pose l'hypothèse que le début de l'humanisation, qui n'a rien à voir avec l'hominisation, procède de quelque chose d'une incestualité positive, d'une incestualité d'un parental dans la psyché du bébé. Et c'est là d'ailleurs que la bipédie est importante, puisqu'elle a permis à la poitrine des femmes de remonter un peu sur le torse, de pouvoir prendre le bébé dans les bras et de pouvoir le nourrir en le regardant.
Oui.
Alors, il me semble qu'il y a eu l'emprise d'un patriarcat qui est venu bouleverser tout ça. Cette emprise qui est vieille de milliers d'années, quand l'humanité des sapiens du néolithique a construit un pouvoir de possession et de transmission, un pouvoir autour de l'écriture et des savoirs enseignés, qu'il me semble que les hommes ont capté et cadenassé. Comment, dans ton parcours, Florence, tu as pu traverser cette emprise ? Par quelle rencontre s'est fait le passage pour toi ?
Alors, les passages, effectivement, c'est la rencontre avec l'autre, et l'autre masculin aussi. Et ce qui est beau, c'est que, effectivement, c'est que on peut se réaliser finalement dans cette espèce de complémentarité.
En tout cas, c'est après des études de droit et de philosophie qui t'ont amené d'ailleurs à longtemps travailler au sein de grands groupes privés et que tu as ensuite cheminé durant plusieurs années en tant qu'analysante. Hein. Et cela t'a amené à une reconversion professionnelle en suivant plusieurs parcours de certification. Et ces parcours t'ont permis de devenir psychanalyste et art-thérapeute.
Oui, oui. Et effectivement, c'est toutes ces rencontres dont je voulais parler tout à l'heure sont des points sur mon chemin. Ça peut partir effectivement de l'enfance à des professeurs rencontrés qui font que je suis celle que je suis devenue aujourd'hui. Ça a commencé peut-être avec mon professeur de philo qui s'appelait Arnaud Monfeuillard, que je n'ai pas revu depuis. Il m'a initiée à la philosophie, m'a donné le goût effectivement de cette curiosité, de cet étonnement à toujours vouloir poser des questions, puisque la philosophie reste quand même cet art de poser des questions au monde. Même si on ne peut pas résoudre effectivement tous les grands mystères. Donc ces rencontres se sont faites avec l'autre masculin, par Arnaud Monfeuillard, par mon grand-père évidemment, dans ma plus jeune enfance, qui a été très très important pour moi puisqu'il a fait fonction paternelle en ce qui me concerne. Et ensuite, avec la rencontre de mon mari, Philippe, et nous sommes parents d'un enfant, et on a créé aussi des choses importantes pour nous, comme la Villa Santé et Eutropie.
Et ce que je trouve important, c'est que à la fois tu peux faire part effectivement dans tes rencontres de type horizontal avec le masculin, avec donc des hommes sur ton parcours, de ta possibilité de créer. Et tu as pu aussi faire émerger ton individualité de thérapeute. Ton site de thérapeute fait part de la déontologie avec laquelle tu exerces tes accompagnements. Peux-tu nous dire un petit peu comment tu conçois ton écoute de thérapeute ?
Oui. Écouter. Alors, entendre, ce n'est pas écouter. Écouter, c'est accueillir l'autre, le sujet, dans toute sa singularité, lui faire de la place, lui donner cet espace. C'est ce que nous, thérapeutes, nous avons le devoir, en fait, de leur donner cette place, enfin, de pouvoir se dire, de pouvoir s'exprimer. Donc effectivement, c'est une écoute particulière. Et nous faisons, je pense, thérapeute, en tout cas en ce qui me concerne, place à cette médiation, de cette symbolisation peut-être aussi, qui a du mal à se dire, qui a du mal à s'exprimer. On est cet espace-là pour que les gens puissent s'écouter finalement, se trouver et devenir ce qu'ils sont.
Et alors ce que je trouve important dans ce type de parcours, c'est que tu es venu à cette écoute de thérapeute par un autre chemin que celui de la médecine, celui de la psychiatrie, où la question des diagnostics nous impose souvent une écoute particulière. Et c'est donc ta propre reconversion professionnelle, alors que tu étais parti par tes études de droit dans un autre travail, qui t'a amené à créer E3PI, une école de psychothérapie intégrative à Toulouse, école que dirige Patrick Lambert, qui est psychiatre des hôpitaux, praticien hospitalier au CHU de Nantes et auteur, entre autres, d'Analyse psychagogique des rêves, paru aux éditions Faber. Peux-tu préciser les différents parcours que propose E3PI, notamment par rapport à la nécessité d'un enseignement de la psychopathologie ?
Oui, effectivement, ce projet est né avec Patrick Lambert, donc, qui est psychiatre, et Philippe, mon époux, qui nous accompagne pour la communication de 3PI. Nous avons voulu effectivement... pouvoir donner, effectivement, transmettre un enseignement qui soit un lieu où les disciplines, effectivement, soient décloisonnées quelque part et moins enfermées. Nous estimons que les psychologues, les médecins, les gens en reconversion dans ces mêmes domaines, ou les psychanalystes, ou même les gens du médico-social, puissent venir avoir... accès à cet enseignement, que ce soit de la psychopathologie, donc qu'on enseigne plutôt en médecine, que ce soit la psychanalyse, que l'on peut bien sûr initier, donc on donne un savoir, une pratique finalement, ou que ce soit aussi la Dasein analyse que tu transmets aussi à 3PI. Donc, on a décloisonné des matières qui forcément ne communiquaient pas toujours entre elles, qui s'opposaient parfois. Et nous les avons fait justement communiquer dans une complémentarité, psychanalyse, psychothérapie et psychologie.
Donc ça, c'est important. Et je pense aussi que les personnes peuvent suivre à la carte certains enseignements sans forcément suivre tout un cursus au sein donc de cette école. Alors, je propose d'écouter encore une chanson de Marie-Lisa qu'elle a intitulée « New Sun Fragment »,« Fragment de nouveau soleil », parce que les paroles de cette chanson m'évoquent la question de la reconversion. Est-elle professionnelle ou existentielle ? Voilà ce que chante Marie-Lisa. « Commence par ce qui est caché. Oh, en bas, près de là où on ne voit pas, dorment bien les fous, les rois et les aveugles. » Bénis par le baiser des émotions qui les guident pour les rendre sauvages et éternels.
Thank you.
Alors, en plus de l'école E3Pi, avec ton mari Philippe, vous avez fondé dans le quartier des Minimes Villa Santé. C'est un lieu avec plusieurs bureaux qui offre à des thérapeutes et à des professionnels du paramédical une occupation à la carte, me semble-t-il, avec en plus possibilité de partage et de rencontre dans une belle salle de réunion et de conférence. Alors, je trouve cette proposition très intéressante parce que c'est une réponse aux contraintes d'installation et j'imagine que ça a dû intéresser beaucoup de monde. Où en est aujourd'hui Villa Santé puisqu'elle a ouvert ses portes en avril 2022 ?
Alors aujourd'hui, Villa Santé, effectivement, est composée d'une grosse équipe très complète. On avait imaginé de la pluridisciplinarité donc, et c'est ce qui se fait dans les médecines dites complémentaires. Donc, les médecines complémentaires sont du soutien à la santé, hein, en plus de la médecine, mais elles ne remplacent pas la médecine, elles viennent en plus dans le soutien. Et là, on trouve effectivement des psychologues qui travaillent à Villa Santé, on trouve aussi du pilates, du yoga pour se maintenir en forme, de la sophrologie, des praticiens en hypnose également. C'est un lieu où effectivement les thérapeutes peuvent s'installer facilement, tout est prévu pour eux, ils n'ont juste à poser leurs affaires. En plus, on leur donne un coup de pouce dans la communication, on les met en avant sur notre site et sur les réseaux sociaux. Donc pour des jeunes qui démarrent, c'est l'idéal, ou pour des gens qui veulent développer leur patientèle dans un autre lieu. Effectivement, des gens qui sont plus à l'extérieur et qui veulent se retrouver à Toulouse, alors que c'est relativement cher, on leur offre cette possibilité.
Et je peux témoigner de ce lieu comme un lieu de grande convivialité, et effectivement, je pense que c'est une belle réussite. Il me semble que pour beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont en difficulté, il y a effectivement cette approche de soutien, où on est plus presque dans des démarches préventives hein, qui permettent de ne pas dramatiser des moments de mal-être, des moments difficiles, et de pouvoir, dans une rencontre avec une personne, par la médiation du corps, la médiation de la création, ne pas basculer justement dans une pathologie qui deviendrait médicale, psychiatrique et qui nécessiterait probablement donc une autre approche. Donc il y a quelque chose d'important dans le droit à traverser des moments de mal-être hein, sans forcément le psychiatriser.
Oui.
Il me semble d'ailleurs que, là encore, on va proposer aux auditrices et aux auditeurs une chanson de Marie-Lisa qu'elle a intitulée « Dancing Chaps, les formes dansantes hein, ». Parce que c'est vraiment le genre d'éprouver qui peuvent conduire à Villa Santé. Elle chante « Marcher dans la rue », entourée de voix, m'appelant à chercher un endroit pour trouver le silence. Quelque chose me montre le bon chemin. Je vois des formes. Toujours elles bougent autour de moi. En grandissant, elles ont fini par voler mon nom. En grandissant, elles ont volé mes rêves pour en faire leur abri. Villa Santé pourra leur permettre de réhabiter leurs rêves.
Walking in the street, then she ran me by voice, calling me to seek a place to find solace. Something shows me the right way, blending with the world to forego who I was. Strangely, I feel like something is missing, but I think I got used to it, and I keep walking to somewhere else. Using all my dreams to hold on to, when they choose to fly away far from the pain. Thank you.
Tu voulais, Florence, nous faire partager avec les auditrices et les auditeurs le texte de Nietzsche sur les trois métamorphoses.
Oui, les trois métamorphoses de l'esprit, dans Ainsi parlait Zarathoustra. Donc je vais vous lire un passage de ce très beau texte. Je vais vous dire les trois métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit devient chameau, comment le chameau devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. Il est maint fardeau pesant pour l'esprit patient et vigoureux, en qui domine le respect. Sa vigueur réclame le fardeau pesant, le plus pesant. Qu'y a-t-il de plus pesant ? Ainsi interroge l'esprit robuste. Dites-le, ô héros, afin que je me charge sur moi et que ma force se réjouisse. N'est-ce pas cela ? S'humilier pour faire souffrir son orgueil, faire luire sa folie pour tourner en dérision sa sagesse. Ou bien est-ce cela, déserter une cause au moment où elle célèbre sa victoire, monter sur des hautes montagnes pour tenter le tentateur. Ou bien est-ce cela, se nourrir des glands et de l'herbe de la connaissance et souffrir la faim dans son âme pour l'amour de la vérité. Ou bien est-ce cela, être malade et renvoyer les consolateurs, se lier d'amitié avec des sourds qui n'entendent jamais ce que tu veux. Ou bien est-ce cela, descendre dans l'eau sale, et si c'est l'eau de la vérité, et ne point repousser les grenouilles visqueuses et les purulents crapauds. Ou bien est-ce cela, aimer qui nous méprise, étendre la main au fantôme lorsqu'il veut vous effrayer. L'esprit robuste charge sur lui tous ses fardeaux pesants, tel le chameau qui sitôt charge, se hâte vers le désert. Ainsi lui se hâte vers son désert. Mais au fond du désert le plus solitaire s'accomplit la seconde métamorphose. Ici l'esprit devient un lion. Il veut conquérir la liberté et être maître de son propre désert. Il cherche ici son dernier maître. Il veut être l'ennemi de ce maître, comme il est l'ennemi de son dernier dieu. Il veut lutter pour la victoire avec le grand dragon. Quel est le grand dragon que l'esprit ne veut plus appeler ni dieu ni maître ? Tu dois. S'appelle le grand dragon. Mais l'esprit du lion dit « Je veux ». Tu dois le guette au bord du chemin, étincelant d'or sous sa carapace aux mille écailles, et sur chaque écaille brille en lettres dorées « Tu dois ». Des valeurs de mille années brillent sur ses écailles, et ainsi parle le plus puissant de tous les dragons. Tout ce qui est valeur brille sur moi. Tout ce qui est valeur a déjà été créé, et c'est moi qui représente toutes les valeurs créées. En vérité, il ne doit plus y avoir de « je veux », ainsi parle le dragon. Mes frères, pourquoi est-il besoin du lion de l'esprit ? La bête robuste, qui s'abstient et qui est respectueuse, ne suffit-elle pas ? Créer des nouvelles valeurs, le lion même ne le peut pas encore, mais se rendre libre pour la création nouvelle, c'est ce que peut la puissance du lion. Se faire libre, apposer une divine négation même au devoir. Telle, mes frères, est la tâche où il est besoin du lion. Conquérir le droit de créer des valeurs nouvelles, c'est la plus terrible conquête pour un esprit patient et respectueux. En vérité, c'est là un acte féroce pour lui et le fait d'une bête de proie. Il aimait jadis le tudoi comme son bien le plus sacré. Maintenant, il faut trouver l'illusion et l'arbitraire, même dans ce bien le plus sacré, pour qu'il fasse, aux dépens de son amour, la conquête de la liberté. Il faut un lion pour un pareil rapt. Mais dites-moi, mes frères, que peut faire l'enfant que le lion ne pouvait faire? Pourquoi faut-il que le lion ravisseur devienne enfant? L'enfant est l'innocence et l'oubli, un renouveau et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, une sainte affirmation. Oui, pour le jeu divin de la création, ô mes frères, il faut une sainte affirmation. L'esprit veut maintenant sa propre volonté. Celui qui a perdu le monde veut gagner son propre monde. Je vous ai nommé trois métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit devient chameau, comment l'esprit devient lion, et comment enfin le lion devient enfant.
Merci Florence, c'est un texte effectivement à longuement méditer. Tellement il y a de richesse dans cette évolution des métamorphoses. Il y aura beaucoup à approfondir cette question des métamorphoses. Et je trouve important, en fait, la place que Nietzsche donne à la question du dragon, avec son importance sur ce que nous avons abordé aujourd'hui avec le complexe de Jocaste et d'Antigone, puisque on en fait un complexe du devoir.
Du devoir,
et
oui.
La question du doigt, hein, qu'il nous faut traverser pour pouvoir ensuite s'en libérer.
Oui.
Et toute la question de redonner à l'infantile de l'enfant, hein, mais que nous portons en tant qu'adultes, hein, et ne pas avoir peur en tant qu'adultes de notre infantile.
Oui.
Merci beaucoup pour ce partage de cette belle lecture que nous aurons à réécouter, ce qui tombe bien, puisqu'en podcast, on peut réécouter autant de fois pour bien s'imprégner de ces trois métamorphoses.
Merci à toi, Bertrand.
Alors, l'émission va se terminer. Je veux vraiment te remercier de faire partie des passages, Florence, parce que ton parcours témoigne du fait que lorsque le féminin et le masculin se conjuguent dans l'horizontalité du parental, hein, eh bien, nos infantiles d'adultes, lorsque nous les mettons en synergie, peuvent devenir force de créativité, comme tu l'as fait avec Patrick Lambert pour l'école Trois Pies, comme tu l'as fait avec Philippe pour Villa Santé.
Oui.
Ce sont des beaux témoignages, hein, qu'il y a plusieurs parentalités possibles, hein, pas seulement de nos enfants, mais
oui,
aussi de nos projets que
exactement,
nous mettons au monde. Voilà, nous allons passer dans quelques jours dans une nouvelle année, mais je pense que beaucoup ne vont pas pouvoir passer des fêtes parce que le monde des humains va mal. Je repense d'ailleurs à ce que j'ai vu hier soir, des manifestations à Kiev en Ukraine où des femmes qui sont avant tout des épouses et des mères réclamaient le retour de leurs époux et des pères de leurs enfants parce que ça fait des années qu'ils sont au front et qu'il n'y a pas de relève, que c'est très compliqué. Ça me faisait penser, encore une fois, que derrière le féminin, ce sont bien des épouses et des mères, hein, qui sont concernées. Et alors, je ne pouvais pas m'empêcher de penser en parallèle, hein, à la question de savoir comment les choses se passent de l'autre côté du front, c'est-à-dire en Russie, où j'ai le sentiment que ce que les femmes pourraient revendiquer, c'est « rendez-nous nos fils » et pas forcément les pères et les époux. Voilà, beaucoup de sujets de douleur et de souffrance. Alors, est-ce que pour éviter que ce monde se déshumanise, il va falloir retrouver nos origines, celles qui sont en lien avec la nature et le monde animal? Qu'en penses-tu?
Bah oui, le retour, effectivement, à la nature. Je dirais que toutes les lois sont déjà inscrites, hein, à l'intérieur de cette nature, et que justement, peut-être que aussi les écoféministes nous montrent la voie de protéger effectivement notre terre, hein, puisque nous la partageons tous. Peut-être que cela inscrit une sagesse, hein, effectivement, voilà, ce respect que l'on doit à la nature et aux uns et aux autres.
Et tu vois, les trois métamorphoses de Nietzsche évoquent aussi, à mon avis, d'une façon très pertinente, la question du monde animal et de nos liens avec ces différentes animalités, puisqu'il évoque le chameau, il évoque le lion, et cet animal mythique qu'est le dragon, qu'on retrouve hein, d'ailleurs dans la mythologie, puisqu'à la fondation de Thèbes, hein, c'est bien la question du dragon qui va être aussi, dont il va être aussi question. Si Clara Isée évoque la chienne qui est à l'intérieur, on évoquait tout à l'heure que peut représenter la chienne. Tu évoquais que ça pouvait aussi, lorsqu'elle est apprivoisée, manifester une présence hein, et une fidélité hein, de la relation de la chienne ou du chien à son maître. Hein. Et je trouvais intéressant parce que Marie-Lisa, dans sa chanson « Mystical Wolf », va jusqu'à retrouver en fait les origines, notamment de la louve, hein, jusqu'à retrouver le cri plaintif de la louve dans le morceau que nous allons entendre. Et ça nous permet d'évoquer aussi la louve, symbole de Rome, hein, puisque c'est elle qui a accueilli Romus et Romulus.
Oui.
Et qu'il y a donc dans la louve la
figure. Les a allaités.
Voilà, oui. La figure de la maternité. Écoutons Marie-Lisa.
Show.
Alors merci encore Florence pour ce beau moment de partage. On va se retrouver l'année prochaine. Prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont proches. À bientôt.
Se pensi che gli anni non andan a finire, bisogna morire, bisogna morire.